I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Autour du genre, il y a eu ne serait-ce que comment est-ce que tu nommes leur partie génitale. C'est un sujet, hein. Franchement, les gens ils vont encore aujourd'hui te répondre beaucoup zizizézette, quoi. Et nous, tu vois, par rapport au consentement, par rapport à tout ce qui va être secret, par rapport à tout ce qui va être leur sécurité physique, on a fait le choix, c'est parti de moi, mais on a fait le choix de nommer toutes les parties de leur corps. Et c'était un truc à déconstruire parce que c'était pas naturel chez moi de lui dire bah là, dans ton bain, tu nettoies ta vulve. C'était pas du tout naturel.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est de retour avec Marie.
De retour, en effet.
Parce que Marie, tu m'as envoyé un message pour postuler, entre guillemets, tu voulais venir parler dans Histoire d'argent, et donc je vais mettre le lien de ton épisode dans les notes si les gens veulent aller écouter ta fascinante histoire de relation avec l'argent. Mais comme il y avait plein de trucs qui s'entremêlaient avec ta vie de maman, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, mais est-ce que tu postules pour Histoire d'argent ou pour Histoire de Daron, je ne sais pas. Et tu m'as dit, bah, peut-être on peut faire les deux.
Tu m'as encouragé à faire les deux, parce que Histoire d'argent, j'étais plutôt claire.
Ouais.
Histoire de Daron, c'est plus challenge.
Pourquoi ?
C'est plus perso, je trouve. J'avais réglé plus de trucs avec l'argent qu'il m'en reste à gérer avec ma parentalité.
Okay.
Et puis comme c'est aussi mon métier, je me disais je vais parler de trucs perso et puis j'accueille, moi je consulte avec des parents. Donc c'était plus, je sais pas, je sens plus une prise de risque, tu vois, de venir te parler de mon histoire de daronne que d'argent.
On va en reparler, mais t'es devenue coach parental, là.
C'est ça.
En mode reconversion, etc. Mm-hmm. Enfin, pour les gens qui ont écouté ou qui peut-être écoute, vont découvrir l'épisode d'Histoire d'argent, effectivement, c'est un truc que t'as mis en place, je crois, il y a un an, c'est ça ?
Il y a un peu plus d'un an, ouais, que je consulte, ouais. Et après, j'avais débuté la formation, qui est une formation longue depuis quelques années, mais effectivement, ouais.
Et c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que souvent les gens ont plus de challenge à venir parler d'histoire de l'argent, enfin de venir parler de l'argent que toi. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour toi là ?
Je pense que l'argent, je trouve ça hyper pragmatique pour moi.
Ok.
Et la parentalité, je trouve pas ça pragmatique du tout. Du coup, quand je me dis je vais parler de mon histoire de daronne, je me dis mais ça peut partir dans tous les sens. Je peux parler de tellement de trucs que c'est plus flou, c'est, les frontières sont plus floues et les sujets sont plus.
Alors je sais pas si on va parler de tout, mais
non, je pense pas qu'on parlera de tout. Tu vas cadrer.
J'aimerais bien juste, est-ce que si ça te dérange pas que tu m'as envoyé une liste de mots clés.
Oui. Gestion de projet, toujours.
Donc tu m'avais envoyé une liste de mots-clés pour Histoire d'argent et je ne crois pas l'avoir lu au micro la liste de mots-clés,
non,
mais je voudrais la lire là en introduction cet épisode, si ça te va.
Vas-y.
Pour donner un petit peu...
Spoiler alert.
Les trucs, voilà. Vivre l'inceste, commence fort. Ne pas vouloir d'enfants, entre parenthèses, ni de mari. Se marier et avoir des enfants et finalement aimer, voire adorer ça. Avoir des filles est la question du genre, ça aussi gros sujet. Créer leur adresse email et correspondre avec leur futur, quelle bonne idée. Faire un burn-out et changer de vie pro, donc ça effectivement c'est un truc aussi dont on a parlé dans Histoire d'argent. Lancer un Instagram pour les parents, devenir coach parental pour toutes et tous, prévoir de rester à temps partiel pour s'occuper de ses enfants, avoir un enfant neuroatypique / TSA, et au milieu de tout ça, faire une thérapie qui remet en question toute ta propre famille et se former à devenir thérapeute. Allez hop là.
Voilà, comme ça tu vois, on aura au moins tout évoqué.
Eh bien dis donc, c'est tout un programme quoi, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles c'est compliqué pour toi, c'est qu'il y a des sujets qui sont très perso dans...
C'est ça, et en même temps c'est des sujets je trouve qui sont importants d'aborder. Et je réfléchissais aussi par rapport à ma posture pro, et je me dis que ça pourra aussi que me rendre plus authentique face aux gens que je reçois et aux problématiques rencontrées par les parents qui viennent me consulter, les familles qui viennent me consulter. Donc j'ai eu ce petit truc de j'y vais pas, mais je suis là.
Tu sais que apparemment on traite souvent les sujets sur lesquels on est soi-même en train de se soigner, ce qui fait que on se sent illégitime. Mais en fait, pour moi, c'est ce qui fait aussi que
notre légitimité. Non, voilà. Tout à fait. Alors moi, on m'avait dit on a pas nos clients par hasard. Et donc souvent, les clients, ils arrivent sur un symptôme, et puis en fait, tu te rends compte que il y a plein de choses qui viennent te chercher toi aussi, et ça, c'est vérifié.
Dans ton propre chemin avec tes patients, tes clients,
je ne sais pas comment tu les appelles.
Très bien. Marie, merci beaucoup en tout cas de venir partager ce témoignage, et merci aussi de prendre ce risque, parce que j'ai bien conscience que effectivement, peut-être professionnellement pour toi c'est une forme de risque, mais je suis aussi d'accord avec le fait que sans doute ça va te rendre, comme tu dis, plus authentique et plus vrai auprès de tes clients. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment t'es devenue, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir maman?
Et ça, c'est une question qui est déjà très compliquée pour moi, puisque je ne voulais pas spécialement être parent. Et je pense que finalement, c'est la rencontre avec mon mec qui a ramené beaucoup de sécurité dans ma vision du monde. Et qui lui voulait être papa. Enfin, avant même qu'on se rencontre, je pense qu'il pourrait te dire j'ai toujours voulu être père. Et d'ailleurs, je pense qu'il avait il a vraiment cette fibre parentale, et c'est là aussi c'est vérifié avec nos deux enfants.
C'est toujours une bonne idée de trouver un partenaire avec qui faire un enfant.
Et du coup, c'est vrai que moi, c'était pas une case à cocher, avoir des enfants, en fait. C'était dans les options, c'était quelque chose... je savais que c'était possible, tu vois. Mais c'était pas un objectif de vie, et c'était pas... Il y avait plein de chemins possibles. Moi, entre mes 20 et 30 ans, j'étais beaucoup à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé, travaillé dans des boulots qui étaient un petit peu décalés en termes d'horaire, etc. Donc... avoir des enfants dans ce contexte-là, bah, j'étais pas sûre. Ça aurait voulu dire, du coup, changer aussi de rythme, bon, ce qui s'est fait, mais pas parce que j'ai voulu des enfants, pour d'autres raisons. Et du coup, j'envisageais, j'avais vraiment la croyance que je pouvais m'épanouir autrement qu'en ayant des enfants, et je le pense toujours, d'ailleurs.
D'accord. Bon, t'as parlé d'inceste, j'ai un peu spoilé, mais je sais pas d'ailleurs.
Ça permet de.
Comment t'aurais pu venir me parler de ça si tu me l'avais pas mis dans un mot-clé? C'était pas forcément un chemin aussi.
Alors, si, parce que j'aurais pu te dire que le non-désir d'enfant, ou en tout cas le questionnement d'avoir des enfants, ça pouvait venir aussi du fait que je n'avais pas aimé être une enfant. Et que là, à ce moment-là, je t'aurais parlé certainement de ça. Du coup, quand j'ai eu 8 et 9 ans, moi, j'ai été agressée sexuellement par un membre de ma famille. Et j'en ai parlé l'année d'après, quand j'avais 10 ans, à mes parents, qui se sont trouvés très impuissants face à cette info. Ils n'ont pas su quoi en faire. Et les parents qu'ils étaient à l'époque, puisqu'aujourd'hui, ils réparent beaucoup de choses, mais les parents qu'ils étaient à l'époque ne m'ont pas accompagnée, ne m'ont pas accueillie dans ce qui m'était arrivé. Ça a plutôt été « Ok, ben, merci de me l'avoir dit, on ne le verra plus. » Et puis, basta, quoi. Donc, okay. C'était pas ce dont j'avais besoin à l'époque.
T'avais besoin de quoi ?
J'avais besoin qu'on me croie. Ça, c'est un truc qui a retardé ma parole.
Mais ils t'ont cru, non ?
Ils m'ont cru, mais j'ai pas tout raconté. Si tu veux, ils n'en ont pas... Donc j'aurais eu besoin qu'on me croie, qu'on m'écoute, c'est la deuxième chose, tu vois. Et qu'on m'écoute vraiment. qu'on m'écoute jusqu'au bout et qu'on n'ait pas peur de m'écouter. Parce que je pense que j'ai, dès mes 10 ans, j'ai beaucoup été le parent de mes parents, tu vois. Et de me dire, ouais, mais là, si je leur dis ça, c'est chaud, en fait. Si je leur dis ça, je vais leur faire mal. Si je leur dis ça, je vais compliquer les relations familiales. Si je leur dis ça, si, enfin, tu vois, dans ma tête, j'ai vraiment ce souvenir de je peux pas... Et donc, du coup, donc être cru, être écouté et qu'on mesure ce qui s'était passé, en fait. Parce que là, du coup, effectivement, on n'a pas mesuré ce qui s'était passé. Et ça m'est revenu dans la figure à plusieurs reprises. C'est comme dans les manèges, là, t'as les perches, les doudous qui repassent, là. C'est repassé plusieurs fois avant que je l'attrape. Et je l'ai vraiment...
C'est vraiment une excellente image, cette histoire de doudou
qui passe dans le manège.
Qui passe et qu'il faut que t'attrapes, quoi.
Ouais, dans la...
Voire même, il te baffe la gueule à plusieurs reprises, quoi, le doudou.
Et ben là, il est venu me baffer la gueule quand je suis devenue parent, en fait. Et,
okay.
et du coup, c'est vrai que... Et ça même, ça fait le lien avec le genre de mes enfants, tu vois. À 5 mois et demi de grossesse, elles sont toutes les deux assignées filles. On me dit, ce sont des filles. Et là, je panique, quoi. Je me dis, ok, donc j'ai devoir accompagner non seulement des êtres humains qui sont dépendants de leur père et moi au moins les premières années, mais en plus de ça, elles sont dans le même genre que moi et donc tout de suite il faut que je me suis tout de suite questionnée sur faudra pas que je les surprotège, il faudra pas que je passe à côté non plus de ce qui se passe pour elles dans la vie, quoi. Donc gros challenge.
Elles ont quel âge ? Donc...
Là, aujourd'hui, elles ont 18 mois et 4 ans.
Ok. Donc, elles sont encore toutes pipou.
Elles sont toutes jeunes, mais cette année, la grande, celle qui a 4 ans est à l'école maternelle, et c'est déjà l'âge de l'exploration du corps, le sien, des questions sur celui des autres, etc. Et je sens que c'est un sujet qui peut m'activer très vite, tu vois.
Et qui t'active comment ?
C'est-à-dire.
Je sais pas, quand tu dis c'est un sujet qui m'active, ça fait quoi chez toi ?
Je pense que j'ai du mal à. Je vais tout de suite être en recherche de solutions plutôt que d'écouter vraiment ce qui se passe pour elle. Et je vais tout de suite être dans la peur qu'on n'a pas respecté son consentement ou qu'elle n'a pas respecté le consentement de l'autre, parce que dans les deux sens, ça me fait peur. Et puis, de me dire, il ne faut pas qu'elle voie dans mes yeux tout ce que je porte. Il ne faut pas qu'elle le porte, en fait. Il ne faut pas que je transmette ce que moi, j'ai vécu. Et ça, c'est aussi challenge.
Oui. Je suis là, je ne sais pas comment faire. À part peut-être toi-même faire la paix avec ce que tu as vécu, quoi.
C'est
difficile de pas...
C'est ça. Et en fait... J'ai fait des tentatives de thérapie autour de 20 ans qui n'ont pas été, qui m'ont pas accroché, qui m'ont pas tenu. Et je suis vraiment rentrée dans une thérapie qui me convient depuis que j'ai commencé ma formation de coach parental, puisque c'est un prérequis d'être en thérapie. Mais aussi depuis que je pense que cette formation, cette reconversion, elle est aussi liée à ma parentalité. Donc en fait, depuis que j'ai des enfants, je travaille sur moi comme j'aurais dû le faire avant, je pense. Donc là, la difficulté, c'est quand même de tout faire en même temps, de découvrir la parentalité, de cette responsabilité, de l'incarner et en plus de travailler sur soi. C'est intense, mais je ne suis pas du tout la seule parent à traverser ça. Donc, du coup, c'est sans doute aussi avec cet élan-là que je suis poussée dans ma reconversion et que j'ai envie d'être une professionnelle qui puisse accueillir ces parents-là et dire « c'est pas grave, tu ne l'as pas fait avant, mais on va pouvoir le faire maintenant et ça va bien se passer. »
Ok. Et peut-être toi-même, tu es en train aussi de le faire.
Exactement.
Sur ce chemin-là en même temps.
C'est ça, oui. Non,
c'est assez fascinant. L'être humain est génial quand même, c'est bon. Non mais c'est vrai que tu ailles toi vers ce chemin pour aller aider des gens, mais en fait sur le même chemin en fait de t'aider toi aussi, c'est assez fascinant, quoi.
Oui, mais c'est en ressentant, tu sais, le truc de nouveau en sentant ce qui se passait pour moi, que je suis aussi capable de voir de sentir ce qui se passe pour les gens et de les aider à cheminer vers ce qui se passe pour eux.
Et quand tu disais qu'on attire les patients...
Hasard.
Voilà, c'est ça. Qu'on n'a pas ses clients par hasard. Tu veux dire qu'au sein de tes clients, tu as des gens aussi qui ont vécu l'inceste eux-mêmes en tant qu'enfants et qui...
Alors non. Cependant, tout ce qui va toucher à... au besoin de sécurité du parent ou tu vois, moi j'ai conscience que dans ma parentalité, j'ai eu un moment où j'étais dans l'hyper-parentalité, où j'étais un peu dans une surpuissance par rapport à ma parentalité. J'essayais d'avoir toutes les infos, j'essayais de tout savoir faire, de d'avoir tous les outils, toutes les techniques, tous les trucs, et puis finalement de pas toujours être le parent que j'avais envie d'être. Et ça, je le vois vraiment très souvent chez mes clients. Je suis pas le parent que j'aimerais être. Je suis épuisée. Je suis ci, je suis là. Moi, je me suis vraiment épuisée. On parlait de mon burn-out dans mes mots-clés. Et ça, c'est vraiment un truc qui vient me chercher sur le, en fait, cette hyper-parentalité, cette hyper-puissance que je suis allée chercher. C'est aussi en miroir de cette impuissance que mes parents ont eue pour m'accompagner sur un truc qui m'est arrivé enfant. Et de me dire, en fait, entre l'impuissance de mes parents, la surpuissance que je suis en train d'aller chercher, au milieu, il y a la puissance, en fait. Et tu peux lâcher un peu le contrôle, tu vas pas tomber dans l'impuissance et tu pourras, c'est à cet endroit-là, en fait, que tu vas pouvoir être le parent que tu as envie d'être. Et ça, par contre, c'est un concept et c'est des notions avec mes clients que je rencontre quasiment tout le temps.
J'en profite pour le partager là, mais ça me fait penser à un truc que ma psy m'a dit, moi qui m'a fucké la tête. Et elle m'a dit, peut-être que dans ta deuxième moitié de vie, tu te rendras compte qu'en fait, être puissant est mille fois plus fort que d'être tout puissant.
Exactement,
et j'ai fait,
je suis d'accord. Ouais. Ah oui, tellement d'accord. Tellement d'accord.
Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression que c'est un vrai truc chez les futures mamans, chez les futurs parents, et surtout de notre génération, parce que je crois pas que c'est un truc qui marchait, enfin en tout cas chez nos propres parents, tu vois, qui ont peut-être aujourd'hui 60-70 ans, qui laissaient peut-être venir un peu plus le truc. Je vois moi toujours sur les réseaux parfois des jeunes mamans qui disent « Oh là là, j'avais un projet de naissance, j'avais un truc ». Donc c'est super parce qu'en fait tu es en train de mettre en place un cocon.
T'investis.
En fait, c'est ça, mais en fait c'est terrible aussi parce que si ça marche pas, et en fait globalement c'est un peu ce qui se passe avec les enfants, quoi. C'est qu'ils viennent te mettre face à ce truc de « Oh mon Dieu, la vie n'est pas aussi toute tracée que ce que je voudrais », parce que juste un être humain qui a sa propre conscience et qui a sa propre vie, ça flingue d'autant plus le cheminement, quoi.
Si tu es justement dans l'hyper et pas dans le « je me prépare, j'ai ma boîte à outils et je sortirai l'outil dont j'ai besoin à tel moment », tu vois. Si tu es dans le « non, je vais y aller à fond » et y a un risque, du coup.
Et qu'est-ce qui faisait que toi, en fait, au-delà de ce truc de vouloir tout contrôler, t'es allé chercher, comme tu dis, cette hyper-parentalité ?
Alors, je pense que le fait de... J'avais ce complexe de pas avoir toujours voulu être maman. Parce que, comme c'est vraiment un truc qui n'était pas vraiment un projet depuis toujours, quand on a fait ce projet de vie avec mon mec, c'est allé relativement vite. Et j'avais cette croyance que j'allais être une mauvaise mère. Parce que j'avais pas toujours voulu être mère. Alors, je sais pas d'où je la tiens, cette croyance, mais j'avais vraiment ça avec moi. Et du coup, de me dire, là, il faut que tu rattrapes un peu le temps perdu et que tu t'informes et que tu saches comment est-ce que tu as envie de te positionner par rapport à ton enfant, mais même comment faire, en fait. Juste même changer une couche, je pense qu'au début, c'était un stress. Donc,
Ok. Il n'y a pas un truc chez toi aussi en mode chef de projet de OK,
si,
en fait.
Si, si, si. J'ai appliqué aussi un truc, on parlait de sécurité, un truc que je maîtrisais dans la gestion de projet. Au début, c'était tout à fait ça, ouais.
OK. Avec tes mots-clés et tout pour tes mômes.
Ouais. Et il y a eu un truc en plus aussi, c'est que ma fille aînée a eu. Elle a des spécificités aujourd'hui, mais donc c'est dès la naissance, en fait, ça s'exprime. Et qu'on a rencontré énormément de professionnels qui m'ont culpabilisé, moi, enfin, nous parents, mais surtout moi, la mère, de « non, mais elle est comme si parce que vous, en fait, si tu résumes très... Et donc, du coup, il y avait vraiment ce truc de se remettre en question en permanence. « Ok, donc si c'est moi, il faut que je fasse autrement. Et comment je peux faire autrement ?» Et toujours courir après une autre technique, un autre outil, un autre truc, en me disant, en les croyant, en fait, en partant du principe que si tu me dis que c'est moi, c'est moi. Alors qu'en fait, en fait, non. Si toi, tu penses que c'est moi, j'ai aussi tout à fait le droit de me positionner et de dire, non, là, il y a un truc qui va pas avec ma fille, en fait. Et c'est ce que j'ai appris à faire, mais il a fallu que je lâche pas mal de trucs.
C'est-à-dire que t'avais peur de contredire les professionnels en face de toi?
Parce que
toi, tu sentais qu'il y avait un truc qui roulait pas. En tout cas, t'avais un truc à l'intérieur de toi qui te faisait dire ça. et que les professionnels de santé allaient contre cette intuition, c'est ça ?
C'est ça. Elle pleurait beaucoup, elle était, moi je l'ai allaitée, elle était souvent au sein, et on me disait, bah oui, c'est un bébé, elle grandit, elle grossit, elle va bien. Sauf que, en fait, factuellement, c'était un enfant, un bébé jusqu'à ce qu'elle soit enfant. Elle a eu 4 ans en mars, et elle a fait sa première nuit le 17 janvier 2022. Donc elle allait avoir 4 ans, tu vois. Et donc factuellement, elle pleurait sur 24 heures, elle devait pleurer 10-12 heures par jour. Elle dormait très très peu, elle se réveillait toutes les 45 minutes, 90 minutes maximum. Là, tu comprends le burn-out et l'épuisement qu'il y a eu derrière. Et on me disait, elle grandit, elle grossit, tout va bien. Sauf que aujourd'hui, on est en train de passer les bilans autour de l'autisme, autour de tout ce qui est neuroatypique, tu as plusieurs choses à faire. Et on se rend compte qu'elle est pas câblée pareil. On s'est rendu compte aussi physiologiquement qu'il y avait des choses. Elle avait du reflux. Moi, premier pédiatre, non, le reflux n'existe pas. Elle a laissé un an ma fille avec un reflux qui fait que la position allongée était une torture pour elle. L'ORL, la première fois qu'on le voit, je lui parle de l'apnée du sommeil, arrêtez de faire des recherches sur Google, madame. Sauf que là, cette année, elle a été opérée des amygdales. Je me suis fait engueuler parce que je n'étais pas venue assez tôt. Elle avait des amygdales qui étaient énormes. Donc, tu vois, j'ai eu des expériences aussi qui faisaient que je suis vraiment allée expérimenter le truc de si tu penses qu'il y a quelque chose, tu peux aussi aller demander un second avis à un autre professionnel et tu peux aussi te faire confiance et faire confiance à ce que tu ressens de ce que ta fille exprime, quoi.
Parce que oui, pour un bébé, dormir, j'allais dire non, pleurer 10-12 heures par jour, c'est pas normal, quoi.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Et comment tu le vivais, toi, et peut-être comment vous le viviez, vous, en fait, d'avoir une môme qui allait pas bien, quoi.
Alors nous, on a beaucoup mis en doute nos compétences parentales, puisque la première réaction a été de consulter, et puis quand on consultait, que ce soit PMI ou pédiatre, on était quand même renvoyé dans nos 22. Donc il y a eu beaucoup de remise en question, nous. Et puis, ça nous a beaucoup isolés. Parce que quand t'as un enfant qui pleure comme ça, t'es épuisé. Tu oses pas aller voir des potes, faire un resto avec notre enfant. Tu sais, t'as des parents parfois, ils ont un enfant qui dort dans le berceau, ils sont en train de manger au resto. Nous, jamais.
C'est honteux.
Jamais.
Arrêtez d'avoir un enfant aussi calme. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est ça, nous, c'était... Et puis en plus de ça, elle a une capacité, notre fille, quand elle est en grandissant, quand elle était avec du monde, elle est quand même sociable, tu vois. Elle est trop sociale. En fait, son problème d'interaction avec le monde, c'est qu'elle l'est trop. Tu vois, il y a certains enfants de TSA qui ne le sont pas assez, qui sont dans le retrait. Elle ne sait pas faire, mais elle y va trop fort.
TSA, trouble du spectre autistique.
Exactement. Et du coup, quand elle était avec des gens, en fait, elle arrivait... elle paraissait tout à fait comme un autre enfant de son âge. Mais quand elle rentrait, elle s'était chargée de plein d'émotions dans la journée qu'elle n'avait pas déchargées. Quand elle rentrait, c'était le why, quoi. Donc ça nous a beaucoup remis en question, ça nous a beaucoup isolés, ça nous a épuisés. Et c'est allé nous chercher super loin dans nos ressources, dans même notre couple.
Oui, j'allais vous poser la question, juste.
Heureusement que mon mec avait cette fibre paternelle vraiment au fond des tripes, parce que moi qui n'étais pas sûre de vouloir être mère, qui croyais être une mauvaise mère, je peux te dire que ça a secoué.
Tu veux dire que t'étais en colère contre toi et en fait c'était peut-être tu lui renvoyais de la colère d'une manière ou d'une autre,
ou non, comment on ça s'est jamais trop engueulé.
Ok.
On s'est jamais trop engueulé.
Ce qui est déjà bien joué.
Ouais, non. On a plus peur, tu sais, de l'après, quand on aura trouvé un équilibre et que tu sais, c'est comme quand t'as plein de bruit dans les oreilles et que tout d'un coup t'as plus de bruit, t'as comme une réadaptation à faire. Je pense que nous, ça...
Comment on va faire quand on sera plus tranquille? On va se retrouver tous les deux et on va être obligé de se parler, peut-être.
C'est ça. Alors, tu sais que, très marrant, on a une... Les gens, il y a des gens qui, en fin de vie, font des bucket lists. Nous, on a une liste de parents quand... Enfin, une liste de couples. De trucs qu'on a envie de faire quand on aura de nouveau une vie, tu vois, de couple.
Ah ouais?
Donc on a une liste de plein de trucs qu'on
qu'est-ce
a envie
que vous
de
avez
faire.
Par exemple pour cette
on
liste
on aimerait trop se faire un Burning Man, okay. Aller boire des coups à Mykonos, tu vois. Donc on a une petite liste comme ça, okay. On ira piocher dedans quand ce sera un peu plus praticable.
Et c'est pas une liste que vous aviez fait avant d'avoir vos enfants?
Non.
Ou... Ok, d'accord.
Non, on l'a fait dans la tempête quand tu dors pas, que t'es épuisé et tu dis t'aimerais être où là? Voilà, je kifferais être à tel endroit et faire tel truc avec toi. Et en fait, rien que le fait de se le raconter, et le cerveau il est bien fait.
Ça donne un peu un phare, oui. C'est ça, de se dire...
Ça donne un phare et puis le cerveau il croit ce que tu penses parfois, donc du coup tu peux essayer de t'auto-convaincre que ça va arriver.
Ah, tu vois, on est complètement sous MD,
c'est
Burning
ça.
Man, c'est super.
Les enfants sont grands, ils vont bien, donc ouais, on sait, je pense que ça nous a vraiment renforcé finalement.
C'est une super idée, je trouve, à transmettre, de venir se dire ok, on est dans un moment de couple parental tendu. Mmh,
ouais.
Comment on fait pour se réinventer notre couple une fois qu'on pourra mettre un peu moins de pression sur l'aspect parental, quoi. Je trouve que c'est cool.
Ouais. En tout cas, chez nous, ça a marché, mais on n'a pas fait grand-chose encore de la liste. Mais du coup, tu sais, ne serait-ce qu'aller au resto tous les deux, pour nous, c'est feu d'artifice, quoi. C'est cool.
Et vous le faites régulièrement ?
On le fait un petit peu plus depuis cette année. En fait, à partir du moment où mon aîné a eu accès à la parole, il y a des choses qui se sont débloquées. Il se trouve qu'elle a parlé très tôt, mais qu'il y avait encore plein de choses à gérer. Mais c'est vrai que là, à 4 ans, elle parle hyper bien. Donc, on a pu mettre des choses en place. Parce que, pour la petite histoire, c'est aussi une enfant qui n'arrivait pas à être gardée par quelqu'un d'autre. Elle hurlait tant qu'on n'était pas de retour. Donc elle nous a épuisés, parce que ça aussi, tu te prends des injonctions dans la figure en permanence. Ouais, mais il faut que tu la lâches, il faut que tu coupes le cordon, etc., etc. Sauf que quand tu investis dans une baby-sit et qu'au bout de 2 heures, elle t'appelle et t'entends ta fille derrière qui hurle et qui dit « Non, mais là, en fait, il faut que vous rentriez. » Tu essayes une ou deux fois pour te dire « C'est peut-être la baby-sit que t'as mal choisie. » Et puis après, tu te dis « Non, il y a une baby-sit de ma fille. Elle venait la chercher le vendredi soir, une fois sur deux, pour qu'on ait une soirée avec mon mec. Elle avait 18 mois. » Elle était à la crèche, elle s'accrochait au poteau de la crèche pour ne pas être récupérée par la babysitter, tu vois.
18 mois.
18 mois. T'as des renoncements à faire. T'as des choix à faire. Tu te dis, bon, bah écoute, là, c'est pas possible pour toi, je vais pas forcer le truc, quoi. Donc, bon, bah, ta soirée resto, tu l'as fait un peu plus tard, et là, quand on l'a fait, on la savoure complètement différemment.
Ouais, j'imagine.
Ouais.
Waouh, ok. Ce que j'allais dire, franchement, un bon resto de temps en temps, ça fait du bien au couple, hein, c'est trop cool et tout. Effectivement, faut que les mômes suivent, quoi, derrière.
Ouais.
Ok. Tu disais avoir des filles, la question du genre, tu m'as parlé rapidement de ces peurs, en fait, qui étaient en toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont venues...
Qui sont venues chercher.
Ouais.
Il y a des sujets autour du... Je sais pas si c'est... Tu me diras si c'est le genre directement, mais tu vois, ce truc de... remettre en question ce que toi t'as eu et pourquoi tu fais tel ou tel truc. Autour du genre, il y a eu, ne serait-ce que comment est-ce que tu nommes leur partie génitale. C'est un sujet, hein. Franchement, les gens, ils vont encore aujourd'hui te répondre beaucoup zizizézette, quoi.
Ouais.
Et nous, tu vois, par rapport au consentement, par rapport à tout ce qui va être secret, par rapport à tout ce qui va être leur sécurité physique, on a fait le choix. C'est parti de moi, mais on a fait le choix de nommer toutes les parties de leur corps. Et c'était un truc à déconstruire, parce que c'était pas naturel chez moi de lui dire, bah là, dans ton bain, tu nettoies ta vulve. C'était pas du tout naturel. Mais je l'ai fait parce que je voulais qu'elle sache que toutes les parties de son corps sont à part égale. Il y a l'intimité, il y a des choses à protéger, ça c'est certain, mais... il faut qu'elle puisse en parler, il faut qu'elle puisse s'en parler, elle puisse, enfin tu vois. Donc ça a été un truc. toutes les notions autour du secret surprise, parce que le secret, c'est aussi une bonne arme d'agresseur, ça.
Bien sûr.
Donc, du coup, dire que les surprises, c'est un truc où tu vas savoir à un moment, tu fais une surprise pour un anniversaire, le jour de la date de l'anniversaire, tu sais. Les confidences, c'est des choses un petit peu dans les deux sens, où tu partages tes émotions. Mais le secret en soi, c'est pas un truc que j'encourage auprès de mes enfants, tu vois. Donc... Et j'aurais aimé avoir des garçons pour faire exactement la même chose.
Oui.
Mais je trouve qu'on réfléchit beaucoup plus facilement à ces sujets-là quand on a des filles. Et parler du consentement, il faut aussi en parler aux garçons. Et c'est pas parce que c'est souvent les filles qui sont agressées que, justement, enfin, pour qu'elles soient agressées, il y a des agresseurs.
C'est un vrai sujet, ça. C'est ouais. Un vrai, vrai gros sujet. Je me souviens à l'époque, sur le forum de Mademoiselle, il y a peut-être des membres qui écoutent aujourd'hui, et je sais qu'elle l'avait très mal pris. À l'époque, moi, je voulais pas trop parler de parentalité sur Mademoiselle, parce que pour moi, c'était vraiment dédié à cette période de vie avant, en fait, d'avoir des enfants. Et il y avait le public des lectrices de Mademoiselle grandissant. Elle finissait par avoir des enfants et finissait par aussi nous mettre une pression sympa, quoi, tu vois, mais sur la rédaction en disant, bah, quand est-ce que vous faites exactement la même chose qu'avec la parentalité, que ce que vous avez fait avec le féminisme, etc., quoi. Donc il y avait une vraie demande. Et en fait, moi, je leur avais dit, bah, j'aimerais bien, on pourrait faire un truc un peu malin autour des mères de garçons. Et j'avais posé une question un peu provoque, bien sûr, parce que je suis un connard. Et je leur avais dit, qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, en tant que mère féministe, pour que, en fait, vos fils ne violent pas mes filles demain. Et ça les avait ultra choqués à l'époque. Mais pour moi, il y a un vrai truc aussi chez tous mes amis qui ont des garçons, en fait, de les sensibiliser à ça et de leur dire, mais en fait, c'est pas possible qu'il y ait d'agression s'il n'y a pas d'agresseur. Alors, bien sûr, statistiquement, il y a aussi des filles qui agressent et il ne faut pas les mettre de côté. Non. C'est très important. Mais globalement, la grosse majorité aujourd'hui, c'est des garçons. Et la plupart des membres du forum à l'époque m'avaient dit, mais moi, je ne vais pas lui apprendre ça aujourd'hui. Il est trop jeune. Et je leur avais dit, mais... Franchement, les gars, j'imagine que vous leur avez appris à pas tuer, à pas voler. Enfin, tu vois, tes gamins, ils volent pour la première fois dans un magasin et tout. Il y a toujours cet apprentissage. Enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi, mais super apprentissage avec ma fille par rapport à ça, qui avait piqué un truc. C'était génial. Et je leur avais dit, mais pourquoi pas leur apprendre le consentement le plus tôt? Alors, bien sûr, je l'avais formulé de façon très provocante, mais pour moi, en fait, autant le faire comme ça. Et je suis d'accord avec toi sur l'éducation du consentement. J'ai fait un très long monologue, mais juste pour dire,
Non, et puis, tu vois, tu disais, tu peux le faire avec plein de petits trucs. Le consentement, ça commence quand ils sont bébés et que grand-père qui veut embrasser l'enfant et l'enfant qui pleure, nommer que bah, là, il n'a peut-être pas envie qu'on l'embrasse, quoi. Ça commence vraiment dans des petits trucs.
Mais tu vois, à 10 ans d'écart... Donc ta fille a 10 ans de moins que mes filles. Moi, c'est pas du tout l'histoire de vulve. Jamais fait ça.
Ouais.
Je savais pas. Enfin, tu vois, pour moi, aujourd'hui, bien sûr qu'avec mes filles, c'est un... Mais il y a 10 piges, impossible. Je me rends compte qu'en fait, énormément de chatouilles, de guilis, de machins, de bagarres, où mes filles, elles disaient non mais arrête, et en fait je continuais à le faire parce que c'était marrant et qu'on jouait, jusqu'à un moment où je me suis dit putain, mais en fait le consentement ça commence avant tout au jeu d'enfant, en fait.
Ouais.
Mais bon, c'est à 10 ans d'écart, on a fait un chemin, je trouve, complètement dingue, quoi. Mais effectivement, je trouve que l'un des premiers trucs pour apprendre aux petits garçons aussi le consentement, c'est dans les jeux entre frères et sœurs, que non c'est non, en fait, tu vois.
Oui, c'est ça. Et que même l'absence de réponse, c'est non.
Exactement. Je ne sais plus pourquoi on parlait. Oui, on parlait de ça par rapport au genre.
Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles le fait d'avoir des filles sont allées te chercher, toi?
En fait, j'ai déconstruit sur tellement de trucs en ayant des enfants. Mais juste pour finir sur le genre, c'est aussi pareil. C'est tous les arguments sur mes filles. Ah bah ouais, t'aimes jouer à la poupée, t'es une petite fille, t'es une super maman. Ces genres de trucs, moi, ça m'allume. Un petit garçon qui joue à la poupée, il se prépare aussi à être un super papa, quoi. Et puis ma fille, si elle a envie de pousser un camion, elle pousse un camion, quoi. Enfin, tu vois. Donc c'était plus aussi par rapport au jeu. Il y a une phrase qui me reste, qui est de dire, si t'as pas besoin de ton sexe pour jouer à ça, Non, si t'as besoin de ton sexe pour jouer à ça, c'est que c'est un jeu d'adulte. Et sinon, tu joues à ce que tu veux. et je trouve ça très cool. Et c'est vrai que, en fait, c'est un petit peu cette. Je pense que c'est rentré par le genre, mais que dans ma parentalité, le fait de remettre en question tout sur d'autres sujets, c'est venu sur ce changement de regard. C'est Fanny Vella qui a fait un super bouquin, une BD en plus, tu vois. Donc, quand tu dors pas beaucoup, tu peux avoir l'énergie de le lire, de vraiment. Appliquer les situations qu'on impose aux enfants dans un contexte d'adulte et faire le tri entre ce que tu gardes et ce que tu gardes pas. Avant d'être mère, je me rappelle que je me disais, c'était hyper important pour moi tout ce qui était autour de la nourriture et du gaspillage.
Finir son assiette.
Exactement. Et quand en fait j'ai compris que pour apprendre la satiété et un bon rapport au corps de tes enfants, c'est aussi intéressant qu'ils disent quand ils ont faim, quand ils ont plus faim, et que bah... C'est peut-être toi qui vas finir l'assiette ou alors ça sera fini à un autre moment et tu vas t'organiser différemment. Mais qu'il y avait aussi de ça, de cette idée de consentement et de ce rapport à toi. En fait, quand j'ai commencé à tirer ce fil-là, je l'ai tiré dans tout, quoi.
Imagine, tu reçois des gens à table pour dîner et effectivement, ils terminent pas leur assiette. Tu leur dis, tu finis ton assiette.
C'est clair. Et tu ne sortiras pas de table tant que tu n'auras pas terminé. Absurde. Complètement absurde.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'adresse mail ? Je trouve que c'est tellement une bonne idée.
Ah ouais, là, on va pouvoir parler de plein d'autres choses aussi.
Il n'y avait pas une pub Gmail qui faisait ça, non ?
Alors, on m'a dit que oui. Donc, okay. Ça m'est peut-être arrivé là, inconsciemment. Mmh. Donc, on m'a raconté ça après, mais après que je l'ai fait. À partir du moment où on a choisi leur prénom, j'ai créé leur adresse mail et je leur écris depuis un rythme qui n'est pas déterminé, qui est assez spontané. Et ça, c'est venu du fait que quand je suis devenue parent, les adultes autour de moi qui avaient déjà eu des enfants semblaient avoir oublié plein de choses. Et en premier lieu, désolé maman, mais ma mère, qui me disait « Mais toi, t'as fait tes nuits à 3 semaines, ton père est retourné bosser, j'ai géré, tout avait l'air simple. » Et du coup, même enceinte, j'ai beaucoup paniqué de me dire... je ne croyais pas à ce discours de tout est simple et tout. Je pressentais qu'en fait, ça allait quand même être compliqué.
Tu crois pas qu'il y a un truc, pendant que je te coupe, mais tu crois pas qu'il y a un truc très intrinsèque à... c'est très dur de dire à ses propres enfants qu'en tant que parent, t'en as chié avec eux.
Je sais pas, puisque moi je fais l'inverse du coup et que je trouve que c'est libérateur, donc j'ai pas cette difficulté.
T'écris à tes filles là aujourd'hui.
Ouais.
T'as écrit pendant la première année et demie où ta fille avait des reflux, etc.
Ouais.
C'est ça.
Ouais,
tu lui racontes tout ça.
Oui, je lui raconte tout ça. Et je lui raconte que ça n'enlève rien à l'amour que je lui porte et que au contraire parfois ça me met au contact parce que si je l'aimais pas il y a plein de choses que j'aurais pas supportées. Mais oui je leur dis et tu vois après mon burn-out je suis tombée rapidement enceinte de mon second enfant, de ma seconde fille et à sa naissance pendant plusieurs mois. Alors même que je terminais ma formation, que j'avais toutes les infos sur comment gérer une fratrie, comment se gérer en tant que maman et tout, que j'avais déjà attaqué le gros de mon burn-out et ma thérapie, j'ai pas été la maman que je voulais, tu vois. Et j'ai déconné plus d'une fois, j'ai crié, j'ai pu saisir ma fille de manière complètement inappropriée, l'aînée surtout, parce que la petite, elle était petite et j'étais plus dans ce mode de protection du dernier. En direct, bien sûr que je vais réparer avec ma fille et lui dire « c'est pas normal ce qui s'est passé, c'est pas ta faute, t'as dû avoir super peur, qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre de la sécu entre nous ?» Mais je leur ai aussi écrit tout ça, parce que j'ai pas envie, moi, d'oublier. C'est une responsabilité pour moi de dire « il y a eu des trucs super cool », je leur écris des trucs super cool aussi, hein. Je leur envoie des vidéos où on se marre, je leur envoie leurs premiers pas et tout, mais je leur dis aussi ce qui déconne. Et ce que j'ai essayé de faire pour réparer, parce que si elles se retrouvent en thérapie à 25-30 ans, ou même plus tard, elles auront plein d'infos qui sont des infos du présent, tu vois, et pas des infos qui sont remâchouillées avec le recul, avec le truc, le machin. Moi, je rêverais d'avoir ce niveau d'infos aujourd'hui dans mon travail perso. Elles en feront ce qu'elles voudront. Peut-être qu'elles trouveront que c'était too much. Les enfants, ils peuvent aussi te renvoyer tes trucs et tes bonnes idées, maman.
C'est très possible.
Mais moi, j'ai fait ma part du chemin, tu vois, dans notre relation.
Et puis, j'ai l'impression que ça t'aide aussi, toi, en tant que maman.
Ça
pour
me
le
pose
coup.
Plein de trucs, ouais. Et puis, ça vient toucher à mon rapport à la mort aussi.
Tiens donc, je ne l'avais pas vu venir celui-là.
Bah non, mais parce que je me dis, moi quand j'ai eu mes filles dans mes bras, enfin tu sais, la première rencontre, le premier regard, je me suis dit, mais j'ai pas peur de ma mort, mais j'ai peur de pas les voir grandir, et de, qu'elles aient pas leur maman avec elles. Et donc là, tu vois, si demain je meurs, elles ont 4 ans et 18 mois de mail, à sens unique, tu vois, mais elles ont des choses qui leur ont été écrites et dites par leur maman. Donc ça me préserve un peu de, s'il se passe un truc, j'aurai une place dans leur vie, elles auront accès à quelque chose de moi.
C'est d'autant plus génial cette histoire de mail que ma fille, ma deuxième fille, en fait, donc moi je suis resté entre, on va dire, leur 0 et leur 5 ans, à vraiment être assez présent, tu vois, à aller les chercher à l'école beaucoup, aller chercher chez la nounou énormément, passer souvent 2-3 heures le soir avec elle, leur donner le bain, etc. Et en fait, ma fille m'a dit il y a un an, je crois, mais en plus de façon très, très simple, mais tu sais, papa, moi je me souviens plus de tout ce qui s'est passé. Je me souviens plus de cette période. Et ça m'a fait tellement chier parce que je me suis dit, putain, mais en fait, moi, j'ai l'impression. Enfin, pour moi, j'ai plein de souvenirs. Et c'est vraiment des souvenirs à sens unique. Et en fait, effectivement, je regrette parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément le téléphone. Enfin, tu vois, j'ai fait quelques vidéos, mais les vidéos, elles sont un peu pourraves. J'avais un caméscope, etc. Mais c'est pareil, ces vidéos, je ne sais même plus où elles sont. Enfin, tu vois, elles sont sur un disque dur perdu. Il n'y avait pas de cloud à l'époque. Et je me dis, putain, en fait, les quelques vidéos que j'ai, régulièrement, je lui envoie, tu vois, quand elle repop sur mon iPhone, en lui disant, mais tiens, en fait, là, tu vois, c'était à ce moment-là, etc. Pour essayer de remettre un peu de sens et de souvenirs, mais en fait j'imagine que ça aurait été d'autant plus fort si ça avait été écrit en live. En fait, c'était une super idée.
En tout cas, c'est vrai qu'on dispose pas des mêmes moyens, et puis que ces vidéos là, les vidéos dont tu parles, elles ont une valeur du coup par rapport à ta relation. Et en leur écrivant, je multiplie un peu le doudou qui tourne là, tu vois,
le doudou qui tourne,
je le fais tourner un peu plus souvent, mais je prends beaucoup de plaisir à leur écrire. Je me pose beaucoup la question, quand est-ce que je vais leur donner les codes?
Oui, c'est ce que j'allais te demander.
Aucune idée. Franchement, je sais pas. Alors, là, dernièrement, aujourd'hui, en 2022, là où je suis, c'est me dire peut-être à la fin de leur adolescence, puisque j'ai vraiment ce truc un jour, je serai plus leurs parents. En tout cas, j'aurai plus la responsabilité d'être leurs parents tout à fait de la même façon. Elles auront leur vie, elles seront parties et tout. Donc, peut-être au moment de boucler cette boucle, quand elles seront dans leur vie à elles, de dire voilà un peu mon état des lieux, voilà, tu vois, mon expérience. Et puis, s'il y a des trucs sur lesquels tu veux qu'on rediscute, des trucs sur lesquels tu veux venir me chercher, ou des trucs seulement tu as envie de repartager, revisiter avec moi, ben, je suis là et c'est là. Donc, pour l'instant, c'est ça le projet, mais ça peut.
Ça va être long parce que tu vois, à partir du moment où elles vont commencer à être ados et tout, tu comptes continuer à leur écrire tout.
J'aimerais bien,
ouais.
Mais après, tu vois, j'ai pris une adresse mail avec leur prénom, nom. Elles vont déjà peut-être vouloir l'adresse. Donc, je composerai à ce moment-là.
Non, d'abord, elles auront elles trouveront un truc avec un surnom débile, t'inquiète pas, comme on a tous su.
J'ai un petit peu de temps.
mais écoute, c'est vraiment une super idée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Instagram pour les parents?
Oui, ben, on était en plein confinement. Je venais d'apprendre ma seconde grossesse. C'est qu'en fait, j'étais à un an de ma certification, enfin du moment où je pouvais commencer à consulter. C'était vraiment un virage parce que j'étais salariée marketing digital avant, et j'ai voulu commencer à m'adresser aux parents pour voir un peu comment je me débrouillais, quoi. Parce que je me voyais mal, tout d'un coup on te dit c'est bon, tu peux faire des consultes et avoir des parents comme clients, je me sentais pas du tout légitime. Donc j'ai ouvert cette page, qui est la première année à rassembler plein de témoignages de parents, et je voulais en plus de ça, on te demande pendant la formation un petit peu c'est quoi ton client idéal, parce qu'en fait t'as plein de coachs, et puis t'en as qui sont spécialisé sur certaines périodes, t'en as d'autres sur certains sujets. Et moi, j'avais pas vraiment envie de me spécialiser sur un âge ou sur quelque chose, justement, mais j'avais vraiment envie que chez moi, dans mon cabinet, tout le monde puisse se sentir sécure. Et donc, j'avais envie de parler de toutes les parentalités, dites atypiques, mais en fait, qui le sont pas. Parce que quand tu parles de parentalité, tu partages tellement de points communs avec les autres parents qu'il n'y a pas lieu de se dire atypique. Et donc, pendant un an, j'ai partagé beaucoup de témoignages de parents, un chaque semaine. Et je partageais aussi autour de moi mes propres difficultés et ce que je traversais aussi. Un peu dans ce souci aussi d'être authentique et de dire « tu vas pas venir me raconter tout ce qui va pas chez toi en pensant que je suis parfaite ». Parce que j'avais aussi ce truc-là dans toutes mes lectures autour de la parentalité. T'as certains pédiatres, psychologues qui viennent te parler du cerveau de l'enfant, d'une nouvelle parentalité dite positive. Mais en fait, je trouvais qu'ils donnaient très peu d'exemples sur leur propre parentalité. Mmh. Et j'avais cet énorme complexe de dire « waouh, mais ils savent tout ça, ils nous transmettent tout ça. Mais genre, ils ont vraiment élevé leur enfant comme ça ?» Il se trouve que très souvent, non. Mais je me disais, moi, j'ai pas envie d'être coach parental avec quelqu'un en face de moi qui pense que tout ce que je suis en train de leur transmettre ou tout ce qu'on est en train de mettre en place ensemble, d'ailleurs, parce que j'essaie de pas trop transmettre, mais plutôt de co-construire un truc avec eux, bah voilà de là où je pars. Et moi non plus, moi aussi, je me suis plantée et moi aussi, j'ai testé des trucs qui n'ont pas marché ou j'ai pas réussi à m'approprier des trucs tout de suite. C'est OK.
Et ça t'a permis de pouvoir te...
Légitimer.
Comment... Oui, c'est ça. Ouais. Te faire grossir aussi une forme de légitimité, c'est ça de...
Oui, bah parce que du coup, j'écoutais... c'était des témoignages écrits, mais j'écoutais les parents pendant une heure et demie. Et ensuite, je reformulais, ce qui est aussi une technique de coach, reformuler ce qui se passe pour l'autre. Et j'avais des super retours. Les parents me disaient ah, « bah, ça m'a fait du bien de te parler, j'avais jamais raconté mon histoire comme ça du début à la fin, j'ai pris conscience de ci, j'ai pris conscience de ça. » Et donc finalement, j'avais... commencer, ça m'a fait un travail d'écoute, une expérience d'écoute, et ensuite je l'ai mis au service d'autres choses dans mon métier, mais ça m'a mis le pied à l'étrier, ouais. Ça m'a donné confiance en moi.
Ok. On parle plus longuement de cette reconversion dans l'épisode d'Histoire d'argent, si vous voulez aller écouter, parce qu'il y a plein de sujets sous-jacents. et effectivement, l'idée à ce moment-là de devenir coach, coach parental pour le coup, ouais. Elle surgit quand en fait dans ton cursus de maman?
Et ben vraiment pendant le confinement et avec cette page Insta, parce qu'avant je faisais la formation pour moi-même et pour j'avais réussi à caler mon boulot plus la formation plus ma fille qui dort pas. Je crois que tu me traites de folle même dans l'épisode d'Histoire d'argent.
Je crois qu'il y a un moment donné où je dis juste que t'es motivée, quoi.
C'est ça. Et en fait, vraiment, au moment où je lance la page Insta, où je gagne en confiance, en légitimité, je me dis non, mais en fait, j'aime trop faire ça. Je suis à l'aise avec ce que je fais. Les gens me font des bons retours. Si ça peut aider des gens et si je peux en vivre, genre, pourquoi se priver, en fait?
Ok, donc pour l'instant, t'es à mi-temps. C'est un sujet dont on cause aussi dans l'histoire d'argent. Et l'une des raisons pour lesquelles t'es à mi-temps, c'est aussi que tu veux être maman l'autre moitié du temps et que tu considères que cette activité de maman est aussi un travail, quoi.
Une valeur, ouais.
Une carrément. Valeur, comme tu dis.
Exactement. Ouais. On est les parents, ils sont tous un peu RH hein, pour les boulots d'après.
CEO de leurs propres enfants.
Exactement. Et puis, ma fille ayant des spécificités, je sais que, tu vois, si je la mettais à l'école, en centre de loisirs, avec une baby-sit ou quoi, ce serait compliqué pour elle. Et tu vois, ça c'est presque une excuse parce qu'en fait, quand je vais les chercher à l'école, je me rends compte que je kiffe. J'aime être la personne qu'elles voient quand elles sortent de l'école et j'aurais du mal à déléguer aussi ce rôle-là. Donc, je pense que être parent, c'est du boulot, c'est un investissement de temps. Et si tu peux organiser, si tu peux, évidemment, hein, on en parle dans l'histoire d'argent, il y a tout un système autour de moi qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire ce choix-là. Mais c'est un choix conscient et un choix qui m'apporte autant que je donne à mes enfants, quoi. C'est dans les deux sens.
Ok. Quand tu dis que c'est un truc que t'aimes... que t'aimes, qu'en fait elle soit là. Qu'est-ce que ça... Comment dire? Qu'est-ce que ça dit de toi, tu crois, en tant que maman, par rapport au fait de le déléguer à une babysitter? Parce que ta fille va mieux aujourd'hui avec les babysitters, ou c'est toujours compliqué?
C'est toujours un peu compliqué, mais après on en a trouvé une avec qui ça fonctionne, qui est là de temps en temps quand le mercredi j'ai des consultes ou quand j'ai des formations, parce que je deviens aussi thérapeute, psychothérapeute, je ne m'arrête jamais. Donc j'ai aussi des jours où je suis encore en formation, et donc elle en a une avec laquelle ça fonctionne, mais je sais que ça je peux pas changer du jour au lendemain, quoi.
Okay.
Donc ça va mieux. La première année d'école maternelle a été très compliquée dans un système classique. Donc l'année prochaine, elle passe dans un système plus adapté. Donc j'ai des bonnes perspectives pour que ça aille mieux. Mais je crois que je ne l'ai pas encore totalement expérimenté. Je ne suis pas encore totalement soulagée là-dessus, sur le fait que ça aille mieux pour elle et que je peux lâcher.
Okay. Voilà,
elle a fait sa journée d'immersion dans sa future école. Et j'étais déjà dans l'anticipation de le matin, elle va pas vouloir. Elle devait passer une journée seule dans l'école. J'étais déjà dans l'anticipation de elle va pas vouloir me lâcher. Ils vont m'appeler au milieu de la journée parce que ça va pas. Et finalement, vu que c'est une école qui est faite pour accueillir les enfants de son profil, en 10 minutes, elle me disait bon bah à toutes. Et ça m'a complètement déstabilisée parce que elle sentait en fait, elle sentait qu'elle était dans un endroit qui était sécurisant pour elle. Et moi, j'avais plus du coup ce, tu vois, on parlait d'hyperpuissance et de.
Ouais.
Et ben là, je pouvais lâcher, je pouvais lui faire confiance et ça m'a déstabilisée, ça m'a un peu déstabilisée. Donc.
Alors que t'avais tout fait pour faire en sorte de trouver un système dans lequel elle sera bien, quoi.
Ah ouais, mais 4 ans sans sommeil. 4 ans de tentatives qui échouent assez régulièrement. J'ai pas encore expérimenté le bateau qui navigue là, qui navigue dans le calme, sans les grosses vagues. J'ai pas encore expérimenté suffisamment longtemps pour totalement lâcher.
Tu veux dire que t'as peur que ça revienne, c'est ça, ou
Je sais pas faire autrement encore.
Ok.
Tu vois, encore. Ça va venir, mais je sais pas faire encore autrement que d'anticiper tout ce qui pourrait mal se passer. Parce que j'ai tellement eu l'expérience de ça. Tu sais, moi, on m'avait dit, avant d'avoir un enfant, pour qu'il soit pas stressé, il faut que tu sois cool. Donc, j'avais travaillé cette cool attitude. Et cette cool attitude, elle m'est revenue en plein dans la figure. Puisque, en étant cool, c'était genre, ah bah, si le médecin me dit ça, bon, il faut que je sois cool, alors je vais pas le remettre en question. Et en fait, tu vois, il y a des moments où c'est chouette d'être cool quand tu peux être cool. Mais il y a des moments où ta vigilance, elle a aussi une utilité, en fait.
Mmh.
Et donc, tu vois, je suis en train de rechercher cet équilibre dans les moments où je peux vraiment être cool et dans les moments où je peux m'activer, quoi.
Comment ça se passe entre la petite deuxième, que j'appelle d'ailleurs la petite deuxième, tu vois,
oui.
et l'aînée là où j'imagine l'aînée prend beaucoup de place, je me demandais un petit peu dans leur rapport aujourd'hui, alors qu'elles sont encore toutes petites, tu vois, elles ont que 2 ans et demi d'écart, donc finalement c'est pas beaucoup d'écart. Comment ça se goupille entre elles?
Et voilà, tu touches un vrai sujet. Alors entre elles ça va, parce que ma fille aînée, quand on lui a annoncé que elle allait avoir qu'un bébé arrivait, etc., on lui a dit très très tôt. C'est-à-dire que même s'il y avait eu une fausse couche ou un deuil périnatal autour de ça, elle aurait été de toute façon au courant. Donc on avait fait le choix de lui dire très très tôt. Et elle s'est attachée au bébé, en fait, même pendant la grossesse. Tu sais, tu sortais, on disait, bon, bah, on sort, tu viens avec papa, on va faire un tour. Elle disait oui, et avec, on l'appelait bébé Bouddha. Donc, et avec bébé Bouddha, tu vois, elle l'a inclus, en fait, pendant la grossesse. Et une fois arrivée, c'est là où tu touches à un sujet, c'est que elle était encore, ma fille aînée avait vraiment beaucoup d'angoisse, de problèmes de sommeil. Elle est suivie à Robert Debré pour ça. Donc, on parle vraiment d'un truc pathologique. Je veux pas que les parents se disent que c'est lié à l'arrivée de. Et elle n'arrivait pas à dormir sans moi, tu vois, par exemple. Et je lui avais dit, par contre, quand le bébé sera là, tu vois, on va pas dormir tous les quatre. Pourtant, on a essayé, hein, mais on va pas dormir tous les quatre au même endroit. Le bébé se réveillera la nuit, etc. Et en fait, mon aînée, je le dis avec beaucoup d'amour, hein, mais elle a vampirisé un petit peu ma relation avec la seconde, parce qu'à ce moment-là, elle avait encore vraiment des besoins de moi qui étaient incompatibles aussi avec le fait que je m'occupe de sa sœur comme j'aurais aimé m'en occuper. Et ça a aussi redistribué du coup les rôles avec le papa, parce que mon aîné étant très exclusive avec moi, et ben le papa, il a dû aussi, on a dû un peu forcer le truc de ouais, mais en fait t'as deux parents, tu vois, t'as pas que ta maman. Et en même temps, mon mec a pris une autre place auprès de la seconde. Et donc, il y a eu un moment où on s'est divisé les nuits. Et donc, il connaît, parce qu'elle n'a pas des nuits parfaites non plus, la seconde, les nuits hachées et être responsable de quoi? Responsable la nuit, ce que j'avais été pour l'aîné, lui, il l'est pour la seconde. Et là, depuis qu'elle dort mieux, depuis janvier, donc on est en juin, ça fait que quelques mois, chacun a retrouvé une place qui est un peu plus équilibrée. et elle s'entend bien avec sa sœur. C'est une ressource, tu vois, quand elle a... Le TSA, ça vient souvent avec des tempêtes émotionnelles plus. Et sa sœur est une ressource, sa petite sœur est une ressource parfois. Elle appelle sa sœur pour se calmer. Et donc, il y a beaucoup d'amour qui circule entre les deux.
Ok. Et vous, en tant que parent, par rapport à justement le fait que aujourd'hui ça aille un peu mieux, de venir équilibrer la relation, ça doit être un sacré truc, ça aussi.
D'équilibrer la relation entre nous quatre.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ah oui, c'est un gros challenge. Ça aussi, tu vois, mes clients m'ont expérimenté aussi le problème de la place de chacun dans la famille. C'est des sujets qui reviennent très, très souvent. Tu vois de quoi je parle ou
pas?
Non,
du tout. Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. De quoi tu parles?
Non, c'est des beaux challenges.
Non, ouais, c'est sûr que quand t'as deux enfants qui ont... Ben, en fait, je suis vraiment en train de me poser la question de... Parce que moi, je suis l'aîné.
Oui.
La mère de mes enfants est aussi l'aînée, si tu veux. Donc, on n'a pas du tout l'expérience de qu'est-ce que ça veut dire d'être un second et de se caler par rapport... Parce qu'en fait, le second, il passe son temps à se caler par rapport au premier et vice-versa, quoi, tu vois.
Alors, merci de me dire ça, parce qu'il y a un truc qu'on avait vraiment avec mon mec, moi, qui ne voulais pas spécialement d'enfants. Quand on a eu cette discussion et qu'on s'est dit, OK, on en fait un projet de vie, je ne voulais pas un enfant. C'était, OK, si on se lance... On veut une fratrie ou une sororité, en l'occurrence ces deux filles. Et du coup, dès la naissance de mon aîné, je lui ai dit, ben voilà, t'es notre premier enfant, bienvenue. Ensuite, il y aura quelqu'un d'autre. Et non, en fait, cette place de seconde, elle a toujours été là. Et d'ailleurs, les gens, ils nous disent, mais vous dormez pas, les gars, pourquoi vous avez eu deux enfants? Tu vois, c'était vraiment une question qui est revenue. Et c'était en fait se dire, mais cette personne-là, on ne savait pas que c'était notre fille à ce moment-là, elle a déjà sa place. Les nuits où j'ai bercé ma fille aînée et où on ne dormait pas, je parlais à sa sœur, tu vois. Je disais, écoute, t'es déjà quelque part là dans mon cœur, mais là, si je ne peux pas t'accueillir maintenant et je ne sais pas quand est-ce qu'on va t'accueillir, parce que sinon, je n'y arriverai pas de la manière dont j'ai envie de
physiquement
faire.
Physiquement même.
Physiquement même. Et du coup, c'était tellement intégré pour nous, parce qu'on est aussi les deux aînés avec mon mec. Et on a eu on a tous les deux des petits frères, et c'était vraiment les deux, ils sont là, ouais, mais toi, t'étais l'aîné, tu me faisais ci, tu me faisais des misères. Donc, tu vois, nos deux frères nous ont toujours fait porter de la culpabilité d'être l'aîné et d'avoir la place du roi. Enfin, eux, c'était vu comme ça. Et pour contrer ça, dans notre projet de parentalité, on avait toujours, il y avait toujours quatre chaises, quoi. Et d'ailleurs, quatre, ça faisait les quatre pieds de la chaise, on était, Donc, est-ce que ça s'est senti, est-ce que l'aîné l'a senti, est-ce que la seconde s'est sentie accueillie comme ça là-dedans? Je sais qu'en tout cas, c'est un sujet qui était en conscience chez nous.
C'est un vrai débat que j'ai eu notamment avec des amis qui ont un enfant, où ils disaient, mais nous, on n'en aura jamais un deuxième, en fait, parce que le fait d'avoir un deuxième, ça oblige forcément l'un et l'autre à se jauger en permanence. Et c'est des choses qui finissent par te dépasser, toi, en tant que parent, en fait, tu vois, où c'est vraiment impossible, entre guillemets, de réussir à offrir la même attention à l'un ou à l'autre. C'est forcément compliqué, quoi.
Et tu peux le décomplexer? Tu peux. Hein,
tu vois, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation,
ouais,
tu vois.
Exactement.
Juste.
Mais en fait, ça peut beaucoup parler d'eux et de leur expérience, nécessairement. Et ensuite, moi, je suis très au clair sur le fait que je ne les élève pas pareil et qu'il n'y a pas, d'égalité. Il y a une recherche d'équité, mais il n'y a pas d'égalité
c'est
entre
sûr.
Mes enfants, c'est certain. Et si tu te détaches un peu de ça déjà, et que tu te dis, bah, je vais faire du mieux que je peux, et puis elles peuvent aussi... moi, je ne les oblige pas à s'aimer non plus, tu vois, mes filles, je les dis très clairement à l'une et à l'autre. Par contre, je vous demande de vous respecter, ça c'est une base. Et à partir de là, elles font ce qu'elles veulent, et c'est une relation de plus sur laquelle elles peuvent s'appuyer et faire des choses et faire des trucs, mais c'est un choix de parents d'avoir deux enfants ou un enfant, d'ailleurs. C'est pas leur choix à elles.
Ça, c'est sûr. Elles font.
Elles subissent nécessairement un moment.
On a tous subi la décision de nos parents, hein, d'une manière ou d'une autre, de nous faire venir au monde. Je voudrais terminer sur le dernier point, qui est peut-être un gros point, j'en sais rien. Au milieu de tout ça, faire une thérapie qui remet en question toute ta propre famille.
Ouais, ouais.
Et se former à devenir thérapeute, parce que c'est ce que tu l'as mentionné là, tu l'as glissé tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous parler de cette thérapie et de comment t'en es venu? Tu disais que ça allait de pair.
Au début, c'était un prérequis, ouais, de ma formation.
T'en avais jamais fait auparavant?
J'avais fait une tentative autour de 20 ans. pour traiter de ce qui m'était arrivé enfant. Et puis ça avait duré peut-être une petite année, mais ça m'avait pas transporté, tu vois, ça m'avait pas fait revoir tout mon prisme. Alors que là, j'ai pris la petite pilule rouge là dans Matrix et je suis en train de tout reprogrammer. Donc c'est un travail plus en profondeur, je suis peut-être plus prête à faire. Et encore une fois, avoir des enfants, ça t'allume la pièce, tu vois toute la lumière et les ombres.
Oui. Et ça te renvoie à tes propres trucs. Hein.
Oui.
Très souvent, les enfants sont des miroirs terribles. Hein.
Ouais. Et du coup, alors que te dire ? Cette thérapie, c'est vrai que elle était née. Enfin, je pense que j'aurais aimé la faire avant d'avoir des enfants, d'ailleurs, parce que ça, tout faire en même temps quand t'es en train de brasser beaucoup de choses, c'est difficile d'être en relation avec tes enfants comme t'aimerais, en tout cas tel que moi j'aimerais l'être. Donc ça a brassé beaucoup. Mais
c'est bien l'adolescence de, tu vois, d'aller d'envoyer à un moment donné tes mômes aller causer,
ah
quoi,
oui.
Tu vois.
Ah oui, moi je proposerais. Elles disposeront, mais je proposerais, parce que en plus de ça, l'adolescence, c'est pour elles, enfin pour eux, pour les ados, c'est une période plein de questionnements.
Oui, puis ça permet de pouvoir peut-être avoir une base un peu plus solide que les décisions qu'on a pu prendre quand on n'était pas encore fait cette thérapie, quoi. Tu vois, en tant que jeune adulte, tu vas peut-être vers un truc qui est plus aligné.
Oui, je pense.
Vers qui tu es, quoi.
Je pense. Et tu vois, justement, mes parents réparent beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est vrai qu'ils me disent, ouais, à l'époque, ça se faisait pas d'aller voir des psys. Ce à quoi j'ai envie de répondre, bah oui et non, tu vois, parce qu'ils existaient, les psys, c'était une profession tout à fait légitime, et tu vois, et ça aussi, tu vois, ça va rejoindre la parentalité, et ce que je dis beaucoup à mes clients, c'est que ça aurait dû être leur responsabilité aussi de dire, là, j'ai ma limite de parent, et il se passe un truc pour ma fille, je sais pas comment faire, et je vais demander de l'aide, tu vois. Et donc, du coup, c'est pas une faiblesse d'aller voir un thérapeute ou de faire un travail sur soi. C'est une responsabilité aussi vis-à-vis des relations qu'on a avec les autres. Là, on parle vis-à-vis des enfants, mais ça peut aussi être de ton entourage, de ton couple, etc. De te dire, s'il y a un symptôme dans ma vie aujourd'hui qui fait caillou dans la chaussure, j'y vais, quoi.
J'ai l'impression que ça a là aussi beaucoup changé en l'espace de 10-15 ans. C'est que dans la génération de mes parents, si t'allais voir un psy, c'est que t'étais fou, quoi.
C'est que t'étais fou. Oui.
Il y avait un peu ce truc, tu vois, de vol au-dessus d'un nid de coucou, quoi, tu vois.
Et c'est comme dans tous les grands sujets, si t'en as pas un qui commence à penser différemment, t'avances pas, quoi.
Exactement.
Donc la thérapie, je sais pas trop quoi t'en dire, mais c'est vrai que moi, j'y suis allée pour un prérequis, et qu'aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude pour tout le travail que je fais en thérapie, parce que... Alors ça, c'est difficile, hein. Ça demande de faire le deuil de la personne que t'étais avant, et la personne que t'étais avant, elle était là pour une raison, elle t'a aidé à tenir, c'est toutes tes stratégies de défense qui ont été là pour quelque chose, donc tu bascules aussi dans quelque chose de nouveau que tu maîtrises pas, c'est compliqué, il faut le faire vraiment avec une personne avec qui tu te sens en sécurité, une approche, il y a des approches qui sont différentes selon les professionnels, une approche qui te convienne. Il y a des abus chez les thérapeutes. Moi, pour le coup, pour avoir testé plein de choses, je suis tombée sur des personnes qui étaient vraiment... Pour moi, tout ce qui va toucher à l'interprétatif, par exemple, est dangereux. Je pense que la personne, elle a ses réponses. Les parents, ils sont les experts de leur enfant, bah t'es aussi... Tous les adultes sont des parents, puisqu'il y a l'enfant intérieur, petite notion au passage. Et du coup, il faut vraiment que tu sois avec quelqu'un qui sente et qui te fasse sentir ce qu'il y a chez toi, pas qui décide pour toi ou qui interprète pour toi. Moi, les thérapeutes les plus dangereux, c'est ceux qui m'ont dit ce qu'ils voulaient me dire et qui sont venus me renvoyer des trucs, peut-être des trucs vrais, je sais pas encore, mais... Et parfois des trucs que t'es pas prêt d'entendre. La temporalité aussi, elle est hyper importante en thérapie. Il y a des choses, si tu déconstruis et les parents qui viennent, et souvent ce qui empêche les parents d'être les parents qu'ils ont envie d'être, il y a trois trucs, c'est l'info, le stress et la résonance avec leur propre histoire. Si ils viennent me parler d'un truc qui résonne fort, fort, fort avec leur histoire et qu'ils sont pas prêts à l'entendre, on y va tout doux, quoi. Donc, il y a vraiment ce respect de la temporalité, ce non-jugement que tu vas aller chercher chez le thérapeute pour que ça puisse venir de toi et que tu puisses en parler de puissance, mais que tu puisses te connecter à ta puissance. Le thérapeute, il vient pas faire pour toi, quoi. Il vient te cueillir et puis il vient te soutenir pour passer... tu sais, j'ai ce, un petit jeu Sega avec le petit Mario. Il prend Mario et il le met sur le niveau d'après.
T'as dit Sega et Mario, ça a trigger. Bon, soit Sega et Sonic, soit Nintendo ouais. et Mario, tu décides. Mais vraiment,
ah
sinon,
mince, j'ai
là...
fait un mix là.
Oh là là,
je suis trop inclusive.
Choisis ton camp, quoi, tu vois.
Okay.
Non, non, pardon, je suis complètement à côté de la plaque. En plus, ça te fait ça. Non, c'était hyper intéressant ce que tu disais. C'est qu'effectivement, le thérapeute, il est là aussi pour t'amener d'une plateforme à une autre, quoi, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
T'aider à grimper, entre guillemets, quoi.
Ouais, il le fait pas pour toi et il te pousse pas dans le précipice, quoi.
Écoute, merci beaucoup Marie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mettrai tous les liens en fait
ouais,
hein, pour te retrouver si jamais les gens ont été touchés, qui veulent venir travailler avec toi. Mais désolé, tu vas peut-être être obligé de passer à plein temps, quoi. Ça va être horrible. Enfin bref, faudra que tu choisisses.
Je travaille la culpabilité en thérapie, tout va bien.
La culpabilité de.
Je sais pas, le sentiment de culpabilité de manière générale.
En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. On a parlé de plein de choses.
On a parlé de plein de trucs.
C'était hyper dense. Et je sais pas, j'aimerais bien qu'on se donne rendez-vous dans quelques années pour faire la suite des histoires, de tes histoires.
Quand mes enfants sont ados, je reviens.
Oh my god.
Il y aura un gros morceau, avec grand plaisir.
Ce sera super. Merci beaucoup.
Merci.
Salut.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.